verrons-nous demain ? Jean-Pierre Estrampe. Architecture, urbanisme, territoire, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous. Après l'épisode du confinement, nous avons eu le mot isolation qui est arrivé. Alors, isolation, après avoir été isolé, le lancement des nouvelles politiques ont mis en avant l'isolation. Je ne sais pas si on avait pensé le rapport entre être isolé et être isolé, isolé par l'isolation et isolé de ses contemporains par l'impossibilité de sortir. Mais enfin, cette isolation est devenue un des thèmes majeurs de la politique nouvelle qui devait être appliquée. Bon, ce n'est pas très nouveau, ça c'est déjà quelques maintenant décennies que l'on en parle. Et ça montre bien que l'importance des mots et ce rapport que je fais entre les deux isolations, je pense, n'a pas été beaucoup rappelé. Alors, il y a un mot qu'on a entendu, par contre, qui a été probablement lancé en tout début comme une provocation, qui était celui de passoire thermique. Et ce qui est très curieux, c'est que ce mot provocateur volontairement, par la magie des réseaux sociaux, par, oui, on peut dire ça, une sorte d'unification horizontale, fait que ce mot est passé dans le langage courant et est devenu un terme officiel où on parle de passoire thermique. Et on a entendu notamment la ministre du Logement qui reprend ce mot qui est devenu un terme, on pourrait dire, officiel, un terme scientifique. Alors, première réflexion, il faut dire que les Verts, les écologistes, ce sont, je pense, des grands sémiologues et ont une grande capacité à trouver les termes qui sont valorisants pour leur combat. Et prendre un exemple, quand on a les éoliennes, au lieu de parler de centrales d'éoliennes, comme on parle de centrales atomiques, on parle de fermes d'éoliennes. Alors, il est évident que ce mot qui est affectif, les fermes, n'a rien à voir avec ces énormes machines qui brassent du vent, avec des moteurs, des masses de béton pour les tenir. Enfin, il n'y a rien dans cela qui peut rappeler les fermes. Mais le mot est minorant et on arrive à faire passer du rural dans quelque chose qui est, on peut dire, le sommet de l'industriel. Donc ça, c'était pour citer un exemple par rapport à cela, mais je vais revenir à passeur thermique. Alors, passeur thermique appliqué au logement, principalement, et au bâtiment en général, me paraît quelque chose qui est un détournement assez grave et on prend les termes comme cela sans y réfléchir. Un bâtiment, un logement n'est pas une boîte, n'est pas une bouteille thermo. Une bouteille thermo, c'est une destinée à garder le chaud et le froid et par destination à être totalement opaque. Les bâtiments opaques, bien, c'est les tombeaux. Les bâtiments opaques, c'est les chambres froides, par exemple, qui sont effectivement fermées entièrement. Quelques exemples que l'on peut trouver. Donc, passoire thermique, ça introduit une notion de transparence et, comme je vous disais, qui s'opposeraient donc à des boîtes fermées. Alors, il y aurait les passeurs d'un côté, et de l'autre, il y aurait des boîtes. Alors, les bâtiments, et le logement en particulier, ce n'est pas du tout cela. Les logements, depuis la nuit des temps, ont été faits pour abriter les hommes du climat, et ce n'est pas très nouveau aujourd'hui qu'on a une sorte de révélation que les bâtiments doivent nous protéger des frimas du climat et de l'extérieur. Et non seulement ils doivent avoir cette fonction de nous abriter, mais en plus, ils sont des éléments relationnels entre le dedans et le dehors, et un bâtiment, il est aussi important dans la manière dont il va s'ouvrir sur le paysage, dont il va permettre par les portes et les fenêtres justement de pouvoir communiquer entre les personnes, entre les fonctions, entre toutes les activités humaines. Donc l'isolation est effectivement le contraire de cela. Ça nous renverrait à des boîtes qui seraient étanches, qui seraient fermées et qui seraient donc l'aboutissement. Alors, encore une fois, le bâtiment n'est pas un produit industriel. Je parlais de l'exemple des bouteilles thermos. Il a cette complexité sociale. Et aujourd'hui, par une sorte, on peut dire, de manie à ne voir qu'une chose et de ne pas voir l'ensemble des réalités, on ne parle que de cela et on oublie la fonction qui peut être diverse parce qu'il y a des bâtiments qui n'ont pas besoin d'être isolés, qui ne sont que des abris, par exemple, qui sont des abris contre la pluie ou des abris contre le vent. Ou alors, ils peuvent être aussi des bâtiments de vacances dans lesquels l'isolation, de vacances d'été, dans lesquels l'isolation pour l'hiver n'est pas une nécessité. Alors, j'écoutais, je crois que c'est il y a deux semaines, une émission sur France Culture, l'esprit public, et un des partenaires de l'émission, un des chroniqueurs, parlait justement avec un discours très enflammé pour l'isolation, dans lequel on disait toutes les qualités que ça allait amener. On parlait donc l'impact économique, que ça allait résoudre la crise du bâtiment. Je vais en parler tout à l'heure. Mais ce n'est pas de cela que je voulais parler. C'était le fait qu'il disait que ça allait apporter le confort d'hiver et d'été et que ça allait aussi apporter le rafraîchissement. Que ça allait apporter effectivement le confort en hiver, puisque ça empêchait le froid de rentrer, ce qui est juste, et il disait aussi ça allait permettre d'avoir des maisons rafraîchies, et ça, ce n'est pas vrai. Alors, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. L'isolation aujourd'hui sur des bâtiments légers n'est pas du tout un facteur de confort d'été. Au contraire, c'est assez aggravant puisque une fois que la chaleur rentre, et elle rentre forcément, comme je vous disais, il ne s'agit pas de bouteilles thermos et de caveaux, on a des allées et venues qui font rentrer la chaleur, et la chaleur est piégée dans la surisolation, et on a des maisons qui sont totalement inconfortables, surtout dans des régions comme la nôtre, où l'été est quand même généralement chaud, et où même les demi-saisons sont assez généreuses. Donc, ça, c'est la première erreur, et je vous expliquerai après justement les problèmes que pose cette surisolation, mais je voulais venir à ce qui paraît être une évidence, c'est que ça va amener beaucoup de travail à tout le secteur bâtiment. Tout le monde sait que le secteur bâtiment a été impacté par le confinement, par la crise. Donc, on relance le bâtiment. On a entendu ça. On va développer le bâtiment, va être relancé. Il va y avoir des nouveaux emplois par l'isolation. Alors, je suis désolé, mais l'isolation, ça ne touche pas les électriciens, les plombiers, les carreleurs, les entreprises de BTP d'une manière générale, les gens qui font les routes, qui construisent les maçons, les charpentiers. Non, l'isolation, ce sont des entreprises privées qui se sont créées d'ailleurs avec un effet d'aubaine par rapport à, d'une part, la réglementation qui est stricte, et puis des aides de l'État qui a créé un nouveau marché, et puis aussi un marché des portes et fenêtres que tout le monde connaît, parce qu'il y a des sollicitations très importantes qui sont faites d'une manière, me semble-t-il, assez hantée, par le téléphone, par des propositions, et des sociétés aussi qui se sont montées pour profiter d'une aubaine et en promettant des miracles sur les factures de chauffage et des miracles que souvent les gens ne voient jamais. Donc, je vais développer ça dans la prochaine, dans la deuxième partie du propos, et on va marquer un petit temps d'arrêt avec une pause musicale. Je suis à combien ? Oui, donc nous parlons aujourd'hui d'isolation. Nous ne parlons pas d'isolement, mais nous sommes partis de l'isolement de la crise Covid avec le rapport à l'isolation du bâtiment. Alors là, nous sommes dans un domaine qui est plus tangible et on pourrait s'interroger justement sur cette frénésie d'isolation et de son utilité. Alors le premier paradoxe qui apparaît, c'est que on nous parle d'une part de réchauffement climatique et puis en même temps de cette nécessité impérative d'isoler les maisons. Donc c'est un discours qui pourrait paraître paradoxal puisque en fait si ça se réchauffe on aurait moins besoin d'isoler. D'ailleurs, on peut se souvenir de la publicité que l'on voit plus mais qui était faite par un organisme public qui s'appelle l'ADEME, où on voyait une maison avec maison avec de sortes de maisons jouées. Et tout autour, il y avait un gros tricot avec « il faut isoler votre maison » et puis c'était « il faut faire à vite parce que ça chauffe ». Donc, en parlant du climat. Donc là, on touchait le paradoxe et on ne voyait pas très bien le lien qu'il y avait entre se couvrir avec un habit de laine à mitoufler au-dessus de la maison et le fait que... on allait vers une hausse de température. Alors, l'argument qui est autrement qui est utilisé, c'est effectivement les économies d'énergie. Là, c'est quelque chose que l'on peut tout à fait entendre par rapport aux particuliers d'abord, et puis à la nation tout entière. Alors, des chiffres sont donnés. Et là, on notera aussi cette particularité du chiffrage, on pourrait dire, du chiffrage écologiste, c'est qu'on dit des chiffres extrêmement précis. Alors, ça varie aussi, mais on entend parler de 41% ou de 48%, c'est jamais des données avec des approximations. C'est donné d'une manière très précise, à la décimale près. Et on peut se poser la question, comment sait-on que le bâtiment consomme ou produit du CO2 avec des précisions telles ? Parce que les données objectives, on ne les a pas. Il y a une enquête qui avait été faite au moment du Grenelle, le premier Grenelle de l'environnement, lancé par Borloo, et un rapport qui avait été demandé à une personnalité importante, qui était l'ingénieur de l'équipement Laplace, et qui avait fait justement un rapport sur le rapport qu'il y avait entre le bâtiment et l'énergie consommée. Et le rapport, tout en ayant le langage... très administratif, en fait, disait une chose très claire, c'est qu'on n'a aucune donnée quantitative fiable, puisqu'en fait, l'énergie est globalisée, et on ne sait par exemple, au niveau de l'électricité, on ne sait pas soi-même quelle est la part de l'éclairage, quelle est la part du chauffage, quelle est la part des outils et des machines domestiques. En plus de ça, une grande partie de l'industrie fonctionne à l'électricité, de plus en plus, machines-outils, robotisation, donc on a de moins en moins de machines qui fonctionnent au pétrole, et on a de plus en plus de machines qui sont à moteur électrique. Donc la part entre le chauffage et toute cette production qui se passe dans les bâtiments est extrêmement difficile à savoir. Et il en est de même pour l'éclairage domestique. Alors, les recommandations de l'ingénieur Laplace n'allait pas du tout dans le sens de qui a été choisi, c'est-à-dire dans le sens de l'industrie de l'isolation. Parce que là, on parle beaucoup des lobbies, mais là, on en a un qui est solide et qui est l'industrie de l'isolation. On avait notamment en France un géant qui est Saint-Gobain, qui a à la fois produit toutes les fibres et tous les produits isolants et puis également les verres, les doubles vitrages et les fenêtres. Donc il a toute la gamme qui est recommandée aujourd'hui. Et on peut lire les interviews du président directeur général de Saint-Gobain qui se félicite évidemment des mesures drastiques qui ont été prises pour l'environnement. Et on comprend très bien qu'il soit satisfait. Alors la question, est-ce que le consommateur, est-ce que le Français moyen doit être satisfait ? Parce que d'une part, on lui impose ou on lui demande sous différents types de pression d'isoler ces bâtiments. Et puis il y a aussi le français qui paie des impôts et de ce fait qui subventionne toute cette politique. Alors, là, encore une fois, c'est très embêtant parce qu'on n'a pas les vrais chiffres et l'ingénieur Laplace, pour citer ce rapport qui a été évidemment mis, je ne sais pas s'il a été mis au panier, mais en tout cas, qui n'a pas été publié, je l'ai trouvé dans la documentation française, bon, en tout cas, qui n'a pas été diffusé et dont on n'a pratiquement pas parlé. L'ingénieur de Laplace disait que l'isolation des bâtiments, ça n'avait pas une très grande importance dans la mesure où une partie de plus en plus importante de l'énergie consommée dans notre pays était l'énergie consommée par les machines. Alors c'était à la fois les appareils domestiques, les séchoirs domestiques, les machines à laver, les machines à laver la vaisselle, tous les produits qui sont liés à l'informatique en plein développement, et aussi toutes les machines-outils dont je vous parlais qui sont aujourd'hui dépendantes de l'électricité. Donc ce qu'il disait, c'est qu'il y avait très certainement des économies d'énergie à faire pour remplacer des moteurs électriques anciens par des moteurs plus performants, mais qu'aujourd'hui, une part de plus en plus importante de la production domestique et de la production industrielle était faite par l'électricité et qu'en fait, le chauffage ne représentait pas du tout les 40% dont on parle aujourd'hui. Il disait ça avec des mots choisis, mais en fait, je vous le dis d'une manière plus crue. Donc, c'est assez surprenant parce que, comme je vous disais il y a un instant, on rend les bâtiments le plus en plus inconfortables. Je vous ai expliqué pourquoi. Du fait justement de surisoler des bâtiments légers et de les construire en levant l'inertie du bâtiment pour mettre des produits isolants à la place. Alors je m'explique sur ce qu'est l'inertie du bâtiment. L'inertie du bâtiment, c'est le poids. C'est ce qui fait que les variations de température, qui sont justement ce qui rend l'inconfort quand la température varie rapidement, et avec l'inertie du bâtiment qui est faite de murs épais, qu'ils soient en pierre, en béton ou en pisé, il s'agit de masses volumiques qui gardent la température. Ça garde la température pour le frais, comme on peut le voir dans les maisons anciennes l'été, et également ça garde la température comme les radiateurs en fonte gardent la température par rapport à des radiateurs plus modernes. Donc ça, cet effet, ce transfert qui est aujourd'hui où on enlève l'inertie de bâtiment pour le remplacer par de l'isolant, c'est pas forcément un très bon calcul. Et puis, il y a aussi quelque chose dont il faut parler qui est très important, c'est l'isolation par l'extérieur qui est aujourd'hui recommandée et on peut dire même qui devient obligatoire et qui, à mon sens, est une aberration absolue et que l'on va payer dans les années qui viennent. Alors, je ne veux pas me faire oiseau de mauvais augure, mais enfin, l'histoire de l'architecture, ça a été toujours de faire des bâtiments solides sur l'extérieur et, disons, à l'intérieur, confortables, les matériaux durs, pérennes, étant à l'extérieur, et les bâtiments et les matériaux plus fragiles, qui peuvent être du tissu, des tapis, qui peuvent être du bois, sont à l'intérieur. Et là, l'inversion qui est faite aujourd'hui avec l'isolation par l'extérieur, ben, ça va produire quoi ? Ben, ça va produire des bâtiments qui ne tiendront pas dans le temps et qui on n'aura pas je ne parle pas de comme les bâtiments romains sur 20 siècles, mais quand des bâtiments, il va falloir, et on commence à avoir déjà au bout de 5 ans, des bâtiments qui doivent être rénovés, le coût global pour la société va être phénoménal. Sans parler de l'horreur de bâtiments dont les façades vont se détruire avec les dangers que ça peut poser parce que ça va tomber, mais il y aura du vent, de la pluie, et ça, c'est pas nouveau. Donc, Là, je pense qu'on est sur une aberration dont personne ne parle, mais je pense que ce que je suis en train de dire, c'est du simple bon sens. Alors, on peut effectivement invoquer en face des problèmes qui vont être du type religieux. Donc, on va dire qu'il faut sauver la planète. Alors, sauver la planète, c'est très généreux, c'est très bien, mais je vois pas très bien la relation qu'il y a entre les ponts thermiques des habitations françaises et le climat global. Alors, on peut penser qu'il y a des actions à faire, mais ce secteur-là, très étroit, qui n'est pas celui de la production de l'énergie en général, mais qui est uniquement sur l'isolation des bâtiments, l'impact sur la globalité de la planète par rapport à notre pays est totalement dérisoire. Et c'est comme vouloir vider un lac avec une petite cuillère, ça n'a absolument aucune importance. Donc, par contre, comme je vous disais tout à l'heure, l'économie d'énergie est quelque chose d'important, mais là, effectivement, il faut le discuter d'une manière beaucoup plus ouverte et ne pas poser des solutions avec des éléments qui sont de type religieux, par exemple de dire ce sont des comportements vertueux, donc si vous ne les appliquez pas, c'est que vous n'êtes pas vertueux. Mais ça, c'est de la morale, ça, c'est de la religion, et qui sait qui peut se prétendre justement vertueux par rapport à d'autres qui ne le sont pas, sans prendre la peine du débat public sur des questions aussi importantes. Voilà, donc je termine sur une note qui n'est pas très optimiste, qui est celle d'une remise en cause des politiques actuelles. Mais je rappelle une dernière fois, les bâtiments ne sont pas des bouteilles thermos, ils sont des lieux d'échange, et ces échanges ont besoin d'ouverture, et les ouvertures et la relation avec l'extérieur, de la vue, de la relation avec les activités et les personnes, est aussi importante que l'isolement et l'isolation, je dirais même plus importante que cela. Et il serait bien que l'on puisse changer les mots et ne pas reparler de ces passoires thermiques comme on l'entend en permanence aujourd'hui. C'était « Où vivrons-nous demain ?» Merci à Yanis qui officie à la technique. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et sur l'application smartphone. Bonne journée à toutes et à tous, et à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Où vivrons-nous demain ?